Peut-être juste un mot sur ce que c'est l'ANSSI, parce que ce n'est pas forcément un objet qui est totalement connu, d'autant plus que c'est assez original. Donc on est l'incarnation de ce qu'on appelle un modèle français de cybersécurité. On aime bien toujours les termes pompeux, mais qui est quand même assez original d'avoir une agence placée auprès du Premier ministre, au sommet de l'État, au plus près de nos hautes autorités, avec des relations régulières avec le Premier ministre et le Président de la République, mais qui intervient dans un champ très technique, qui fait de la cybersécurité, que de la cybersécurité, toute la cybersécurité, c'est-à-dire qu'on n'est ni un service de renseignement, comme ça peut l'être dans d'autres pays, ni un service de police, mais une agence dédiée à ça, fondée sur une expertise scientifique et technique profonde, avec des laboratoires de recherche dans l'agence, avec un rôle très opérationnel de réponse aux incidents de cybersécurité les plus graves, mais aussi un rôle de régulateur, de faire les règles et de les faire appliquer, un rôle de conseil auprès de nos autorités, un rôle de politique industrielle, donc le chef d'orchestre quelque part de la cybersécurité en France, et avec un modèle qui, je prétends pas être objectif, mais marche plutôt bien et nous permet de tenir un rang de grande nation de la cybersécurité aujourd'hui. Pour vous parler de cybersécurité, je dois vous parler de menaces. Déjà, pour résumer, la menace à laquelle on fait face, elle est de trois types. Elle est d'origine étatique, en partie, avec des États qui nous attaquent, leurs services de renseignement. Elle est d'origine criminelle, avec du crime organisé qui s'est évidemment emparé de ces sujets-là. Et elle est d'origine activiste, avec des gens qui portent des revendications, qui cherchent à faire du bruit, dont je parlerai peu, parce que ce n'est pas notre préoccupation la plus fondamentale. Ça, c'est le paysage statique de la menace. Maintenant, même si le sujet de la cybersécurité il est relativement jeune, on est déjà, je le pense, dans la deuxième époque de la cybersécurité, en une vingtaine d'années, grosso modo, d'histoire du sujet, et on est, pour être précis, dans une période charnière. La première époque, celle que j'ai connue en arrivant à la DCSSI puis à l'ANSSI, était très focalisée sur la menace stratégique posée par les États qui nous espionnaient. Les États, évidemment, se sont emparés très vite de ce sujet-là, ont utilisé ça comme un vecteur pour espionner. Quelque part, ce n'était pas non plus un changement radical, parce que les États espionnaient avant la cybersécurité, avant la cyber, avant le numérique, et puis ils continueront à espionner jusqu'à la fin des temps, probablement. Donc c'est pas un changement de paradigme, c'était un changement d'échelle. Je pense que le grand public s'en est rendu compte à l'occasion des révélations Snowden, mais évidemment, ça existait avant, et ça n'était pas limité qu'au seul État qui a été l'objet de ces révélations. Donc il y avait quand même une vraie prise de conscience dans l'État de la nécessité de se prémunir de ces menaces-là. Ça reste une composante majeure de notre action aujourd'hui. L'ANSSI, chaque année, engage une quinzaine d'opérations de cyberdéfense, ce qu'on appelle nos niveaux d'engagement le plus élevé, avec des équipes constituées de plusieurs dizaines de personnes qui travaillent pendant des mois sur des sujets d'espionnage, parce que cette menace d'espionnage, elle reste omniprésente, elle cible sans grande surprise les administrations sensibles, nos réseaux diplomatiques, la prise de décision politique, mais aussi nos entreprises, les entreprises de défense, les entreprises du spatial, les entreprises innovantes aussi sont des cibles légitimes pour cet espionnage. Donc ça, c'est ce qui existe depuis le début, qui continue à nous occuper, qui continuera à nous occuper, parce qu'il faut y répondre. Ce qui se passe depuis 2-3 ans, qui m'amène à penser qu'on est dans une deuxième époque, c'est qu'au-delà de cette menace stratégique qui perdure, on a ajouté une menace que je qualifierais de sociétale, voire d'existentielle. Et ça, c'est le fait de plusieurs évolutions. Déjà, c'est l'évolution du crime organisé, qui a toujours cherché à faire de l'argent autour du numérique, hein, mais qui... ces dernières années, c'est industrialisé, c'est structuré, avec des outils qui travaillent à très grande échelle, avec une structuration de l'écosystème, des acteurs spécialisés dans l'hébergement échappant aux autorités, des acteurs qui vendent du code d'attaque sur étagère, des franchises. Si vous regardez un grand groupe qui fait du rançongiciel comme Lockbit aujourd'hui, ça fonctionne presque comme McDo. Il y a une maison mère qui produit un outil, puis ensuite il y a des franchises qui portent leur propre logique commerciale. Et ça veut dire que derrière cette industrialisation, on est sorti d'une logique de ciblage de quelques acteurs qui payent cher des rançons, par exemple, pour une logique de pêche au chalut. Ça veut dire que le rançongiciel en particulier, qui vise à paralyser des systèmes et à exiger une rançon, c'est le modus operandi fondamental, aujourd'hui, il n'épargne personne. On n'a pas besoin d'être une cible pour être une victime. Et ça veut dire que ça crée des conséquences parfaitement inacceptables sur toutes les petites victimes qui sont celles qui sont moins confrontées, depuis moins longtemps en tout cas, à la menace, les hôpitaux, les PME, les collectivités locales. Et ça a des conséquences inacceptables sur la vie de nos citoyens, parce que quand, comme ça s'est produit réellement, deux grands hôpitaux du bassin parisien, celui de Versailles et celui de Corbeil-Essonnes, sont paralysés simultanément et pendant des mois, parce qu'il faut des mois de reconstruction dans un hôpital, en plein pic grippe, Covid, bronchiolite, les médecins parlent en termes bien mesurés de perte de chance, on sait ce que ça veut dire. Et puis ça a des conséquences inacceptables sur la vie de nos concitoyens, parce que quand une PME fait faillite à cause d'une cyberattaque, c'est un fait divers. Quand 1000 PME font faillite en même temps, c'est une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Quand une collectivité ne fonctionne plus, les effets boule de neige sur la vie quotidienne, sur les écoles, sur le traitement des eaux usées, des déchets, c'est horrible à dire, mais sur les services funéraires, tout ça, c'est dépendant d'une mairie qu'aujourd'hui. Et quand une commune est victime, même pas ciblée, même qu'elle ne peut pas payer une rançon, est victime d'un rançongiciel, on a ce type de conséquences et c'est inacceptable. L'autre évolution majeure, c'est que du côté des États, au-delà du crime organisé, on voit se concrétiser aujourd'hui une menace qu'on anticipait depuis un certain nombre d'années, c'est celle du sabotage au-delà de l'espionnage. Donc de la destruction numérique ou physique d'infrastructures critiques par des États, dans une logique d'affrontement, plus que de simple contestation, avec des exemples saillants en marge de la guerre en Ukraine, mais pas que. Avec une attaque qui a marqué les esprits dans la nuit de l'invasion russe en Ukraine, qui a détruit tout un réseau de communication satellite, c'est peut-être la plus connue, qui s'appelle Viasat, qui a ciblé évidemment le théâtre d'opérations ukrainien, mais qui a largement débordé, puisque ça a affecté plus de 10 000 terminaux de communication satellite en France. Et je vous laisse imaginer que les communications satellites, ça coûte cher, et donc c'est plutôt réservé à des usages un peu critiques. Donc à travers ça, on a eu des conséquences en boule de neige, là encore, sur des réseaux de transport, des réseaux de distribution d'énergie, des choses comme ça. Donc ça, c'est des choses qu'on observe maintenant au quotidien, malheureusement, et pas que sur un théâtre d'opérations guerrier comme l'Ukraine, y compris dans notre partie plus occidentale de l'Europe, y compris chez nos alliés outre-Atlantique, y compris dans des logiques de prépositionnement. Ce qu'on appelle prépositionnement, c'est des attaquants étatiques qui rentrent dans des réseaux, qui restent discrets dans des réseaux, qui en prennent le contrôle, qui font tout comme s'ils allaient espionner, mais qui n'espionnent pas. Et donc, c'est des attaquants dont on se doute qu'ils sont là pour attendre le jour J et l'heure H et tout éteindre. Et par exemple, nos amis américains ont fait des constatations en ce sens-là dans toutes leurs bases et tout leur territoire et possession du Pacifique qu'ils ont attribué publiquement, et j'ai pas de raison de commenter cette attribution à la Chine, mais là aussi dans une logique de préparation potentiellement d'affrontement entre grands blocs. Et puis quand je parle de menaces de ce type-là, évidemment, c'est quelque chose qu'on a particulièrement en tête dans la perspective des Jeux Olympiques. L'ANSSI a été chargée d'assurer la cybersécurité des Jeux Olympiques. Clairement, si quelqu'un veut nous faire du mal, veut nuire à l'image de la France, il fera des choses de ce genre-là au moment de la cérémonie d'ouverture au hasard. Et on doit s'y préparer. Et je parlais d'une menace existentielle parce que, au-delà des infrastructures critiques, dont dépendent la vie de nos concitoyens, les vies de nos concitoyens, on a même une menace qui s'en prend au fondement de notre fonctionnement démocratique. Alors qu'il s'inscrit dans un continuum entre cyberattaque et manipulation de l'information avec des frontières floues, mais les premiers exemples dont on a beaucoup parlé, c'est la campagne d'Hillary Clinton en 2016, les Macron leaks en 2017, mais c'est des choses qui perdurent et qui restent peut-être une menace fondamentale sur le fonctionnement de notre société. Donc cette extension de la menace qui touche maintenant tous les pans de notre société et pas que dans une logique d'espionnage, c'est notre principal défi aujourd'hui. Moi j'appelle ça passer à l'échelle ou industrialiser nos réponses en cybersécurité face à l'industrialisation de la menace. On a la chance en France de savoir traiter le haut du spectre depuis des années, avec la création de l'ANSSI notamment, de traiter les attaques en espionnage. On peut toujours s'améliorer, mais on a une certaine capacité à le faire, des attaques très ciblées. Moi j'appelle ça de la haute couture parce que ça reste des approches très, très artisanales, très expertes. On a besoin de continuer à faire de la haute couture, parce que la menace ne disparaît pas, mais on a aussi besoin d'apprendre à faire du prêt-à-porter, à traiter, à faire des solutions prêt-à-porter, qui s'adaptent qui sont pas sur mesure, qui sont utilisables par des entités plus petites, par des PME, par des collectivités, par des hôpitaux, des établissements d'enseignement aussi, qui sont des cibles, ou en tout cas des victimes, qui n'ont pas et qui n'auront jamais le même niveau ni de moyens ni de maturité, mais qui doivent se protéger un minimum pour éviter fondamentalement le grand soir, c'est-à-dire le fait que des pans entiers de notre société, de notre économie, soient attaqués en même temps et soient défaillants en même temps. Ce défi de passage à l'échelle, il a plein de dimensions. Il a une dimension de régulation. On a été en France assez traditionnel parmi les premiers à réguler en matière de cybersécurité. On doit faire passer à l'échelle cette régulation et on est en train de le faire, notamment à l'échelle européenne. Ça renvoie à un défi d'outillage, parce qu'il faut des solutions qui passent à l'échelle et qui soient le plus automatisées possible ou qui soient faciles à prendre en main. Ça renvoie à un défi peut-être le plus fondamental de compétences, parce que c'est le nerf de la guerre, les humains formés à la cybersécurité aujourd'hui. Et le chiffre vaut ce qu'il vaut, hein, mais l'estimation aujourd'hui, c'est qu'il manque 40 000 personnes formées sur le marché français de l'emploi en cybersécurité. Et ça va pas diminuer, parce que les besoins explosent à mesure que les besoins de cybersécurité se répandent dans les petites structures. Et puis ça renvoie à des enjeux internationaux aussi de coopération avec nos alliés, de construction d'une Europe de la cybersécurité qui est une réalité aujourd'hui, mais qui doit encore se consolider. Et évidemment, tout ça se fait sur un matériel, un cadre technologique qui évolue lui-même et dont il faut savoir accompagner les évolutions, qu'il s'agisse de ruptures. Alors là, je vais pas vous faire un grand exposé techno, mais si vous voulez, je pourrais rentrer dans les sujets-là. Mais évidemment, on a des ruptures technologiques. L'ordinateur quantique va nous poser, s'il arrive un jour, un tas de problèmes qu'on doit anticiper. On a des évolutions de fond des usages comme le cloud dont on n'a pas fini de se sortir en termes de cybersécurité parce que ça change toutes nos manières de faire. Et puis on a des choses qui sont sur les deux tableaux à la fois, rupture techno et évolution des usages. L'intelligence artificielle, évidemment, c'est un énorme sujet pour nous. Et on doit construire ce passage à l'échelle en accompagnement des changements technologiques et peut-être en profitant aussi parfois. Je ne veux pas faire une longue litanie des défis qu'on a devant nous, mais on a ce défi de passage à l'échelle. Il renvoie aussi à deux défis connexes qui me tiennent à cœur également. Le premier, c'est celui de l'appréhension de ces sujets par la population générale. Aujourd'hui, on est sur un sujet de la cybersécurité qui n'est pas que technique, qui est un sujet avant tout de gouvernance, de bonne prise en compte de ces risques-là, comme d'autres risques de catastrophes naturelles, de risques financiers, de choses comme ça, par les équipes dirigeantes, par les citoyens. Moi, je suis assez horrifié, je vous l'avoue, quand je vois les raccourcis que font encore les médias sur la compréhension des cyberattaques. Et je suis horrifié, alors non seulement parce que j'ai un attachement à la vérité dans l'absolu, mais aussi parce que je me dis, qu'est-ce qui se passera si demain, une cyberattaque met en doute le résultat d'un scrutin national, d'un vote ? Déjà, je souhaite bonne chance au Conseil constitutionnel pour trancher un sujet de ce type-là. Mais comment on maintient la confiance de nos concitoyens face à un sujet qui est éminemment technique, mais qui a des répercussions évidemment non techniques. Et donc on a un enjeu de compréhension et de partage de la compréhension de ces enjeux-là au sein de la population en général pour faire des citoyens numériques qui sont prêts à gérer ce genre de problème. Et puis ça pose le défi connexe également du rôle de l'État, parce que face à cette menace de cybersécurité, face à son extension, l'État ne peut pas tout faire lui-même, parce qu'il n'aura jamais la force de frappe pour tout faire lui-même, parce qu'il est dépendant, comme tout le monde, d'acteurs privés, et ils ne sont pas tous français, évidemment, mais en même temps, il ne peut pas se dessaisir. On doit résister à la tentation qui est celle à laquelle ont cédé certains États dans le monde, je ne donnerai pas d'exemple, qui consiste à dire « on va tout donner aux GAFAM et ils vont traiter le problème pour nous ». L'Ukraine a été un peu obligée de le faire, c'était pas un choix qui a été mûri, hein. ça a été fait dans l'urgence, d'autres le font de manière plus réfléchie. Je pense que la France n'a pas vocation à le faire, mais ça veut dire qu'il faut trouver d'autres manières de travailler, avec une répartition des compétences et des responsabilités qui reste à consolider, et un travail en réseau. Je ne vais pas être beaucoup plus long, je veux juste dire que pour faire tout ça, on a quand même quelques forces, pour finir sur une note d'espoir. On a des forces dans l'organisation de l'État qui a su se doter d'une organisation, d'une gouvernance plutôt propre, de mon point de vue, qui sépare l'attaque et la défense, qui place ça au niveau interministériel avec un accès direct au Premier ministre, au Président de la République pour prendre des arbitrages structurants, qui a su prendre le virage au bon moment, la création de l'ANSSI en 2009. D'autres États font le même choix aujourd'hui, avec plus de 10 ans de retard. On a la chance d'avoir un tissu industriel, un secteur privé qui est quand même plutôt une aide et plutôt bien développée en France, notamment dans l'offre de services. Et aujourd'hui, quand l'ANSSI doit traiter des attaques dans des hôpitaux, dans des collectivités, en vrai, c'est des prestataires privés qui sont certifiés par l'ANSSI qui agissent. Et puis, on a quand même, dans le tissu industriel français, une certaine maîtrise dans des technologies critiques qui reste une force. On a la chance énorme d'avoir une recherche académique de pointe. J'ai encore eu l'occasion de m'en rendre compte ce matin en découvrant ce qui était devenu l'activité de recherche de l'IX dans ce domaine. Et puis on a une chance potentielle, et je terminerai là-dessus, c'est mon moment « we need you », c'est vous, c'est vous, parce qu'on a besoin plus que jamais, je l'ai dit, de gens formés. Et pour être précis, on a besoin de deux choses. On a besoin de spécialistes hyper pointus, parce que ça reste un domaine technique de pointe. On a besoin de gens qui sachent faire de la crypto, qui conçoivent peut-être le chiffrement homomorphe de demain, qui sera un truc qui fonctionnera vraiment dans un cloud réel et pas juste dans un labo. Et on a besoin aussi de femmes et d'hommes orchestres qui sachent à la fois avoir un pied dans la technique et comprendre ses enjeux, mais un pied dans le reste du monde, qui sachent en parler à des décideurs politiques, à des chefs d'entreprise, à des médias, à la population, qui sachent non seulement en parler, mais traduire cette réalité technique qui est fondamentale, qui est incontournable, qui s'impose à nous, en langage de l'économie, du droit, de la politique industrielle, de l'action publique au sens large, parce que on ne vaincra jamais, on ne relèvera jamais ce défi si ça reste un défi de technicien. Et là encore, on a besoin de faire comprendre ce sujet par les décideurs, par la population.